On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info.
Garagou justement cherche à revenir, ce sera Perry qui perd. Newhook entre, Newhook, le tir en deux tirs, le retour, le vent, c'est ce qu'il a fait. Pour Garagou,
pour ou contre la fièvre des séries? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 27 avril 2026 dans Les As de l'Info. Tes mains sont moites? Ton cœur bat fort? Tu as chaud? Serais-tu victime de la fièvre des séries? Eh oui, en ce moment, on parle de hockey partout, parce que ce sont les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Au Canada, le hockey, c'est du sérieux. Admirateurs, politiciens et vedettes affichent les couleurs de leur équipe préférée. Au Québec, on a l'impression que tout est bleu, blanc et rouge. Les couleurs de l'équipe du Canadien de Montréal. Mais est-ce que c'est un peu exagéré? Voyons ensemble les pour et les contre de la fièvre des séries. Les pour, c'est rassembleur, en famille, entre amis et même avec des inconnus. On se rassemble pour encourager notre équipe. On crie, on stresse et on célèbre ensemble. Même des gens qui normalement ne sont pas des amateurs de hockey se mettent à suivre les matchs. On met nos différences de côté, et ça, c'est toujours une bonne chose. Même les politiciennes sont atteintes par la fièvre des séries. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette, portaient des chandails du Canadien de Montréal lors de leur première rencontre le 22 avril. C'est vraiment excitant. Les séries nous font vivre plein d'émotions. De la fierté, de la joie, du stress. On attend chaque match avec beaucoup de fébrilité. On rêve à la coupe. Quand on gagne, l'atmosphère est à la fête. Quand on perd, on a le cœur en miettes. Et c'est sans parler de tous ces jeunes joueurs qui réalisent leurs rêves devant nos yeux. C'est tellement inspirant. Bref, les séries, c'est vraiment pas plate. C'est bon pour l'économie. Pour les bars et les restaurants sportifs, les séries, c'est vraiment une bonne affaire. Les clients se rassemblent pour regarder les matchs. Même chose pour les commerces autour des arénas où les admirateurs se donnent rendez-vous. Il y a aussi des touristes qui voyagent pour aller voir leur équipe jouer à l'étranger. Tout ça, c'est très bon pour l'économie. Les contres, c'est trop intense. C'est bien beau de voir des amateurs de hockey soutenir leur équipe, mais des fois, c'est exagéré. Il y en a qui prennent ça trop à cœur. Maquillage, rituel, superstition, hurlement de la mort quand un but est compté, grosse baboune quand on perd. Cette intensité mène parfois à des débordements. Vandalisme, bataille, on se calme. C'est juste du sport. Ça prend trop de place. Les matchs, les commentaires des entraîneurs, les analyses sans fin, les statistiques, les séries prennent toute la place dans les médias et les conversations. On dirait que la Terre s'est arrêtée de tourner et qu'il ne se passe rien d'autre. Pendant ce temps, il y a des enjeux importants dont on ne parle pas. C'est beaucoup de pression pour les joueurs. Chaque passe, chaque but, chaque coup de patin est scruté par des millions de yeux. Quand un joueur commet des erreurs, ça arrive, les joueurs sont humains. Il se fait insulter et intimider. Kirby Dach, du Canadien, a fermé son compte Instagram cette semaine après le match contre le Lightning de Tampa Bay. Pourquoi? Beaucoup de fans l'accusaient d'être le seul responsable de la défaite. Ça va trop loin. En bref, pour, C'est rassembleur. C'est vraiment excitant. C'est bon pour l'économie. Contre, c'est trop intense. Ça prend trop de place. C'est beaucoup de pression pour les joueurs. Toi, es-tu pour ou contre la fièvre des séries? Le bégaiement. Et si les gènes étaient partiellement responsables? Un texte paru dans Québec Science. Le bégaiement, cette difficulté à parler de façon fluide, est bien mystérieux. Une grande étude génétique révèle que le bégaiement pourrait avoir une composante génétique, au moins partiellement. Salut! Tu es probablement déjà tombé sur quelqu'un qui bégayait sans vraiment savoir pourquoi cela arrive. Peut-être bégayes-tu toi-même. Pourquoi ces hésitations, ces répétitions de syllabes, ces difficultés? Le stress? Des muscles buccaux paresseux? Autre chose? Une étude génétique d'envergure, publiée à la fin juillet 2025, apporte des réponses très concrètes. Des scientifiques ont analysé l'ADN de plus d'un million de personnes, dont près de 100 000 qui avaient déclaré « Oui, j'ai déjà bégayé ». Résultat, 57 zones précises du génome, appelées LOCI, ont été repérées comme étant liées au bégaiement. Ces régions concernent au moins 48 gènes différents. Cela signifie que le bégaiement n'est clairement pas causé par un seul gène du bégaiement. C'est un phénomène complexe ou polygénique où de nombreux gènes jouent chacun un petit rôle. En plus, ces gènes sont liés à des fonctions cérébrales essentielles comme la parole, le rythme et même certains traits associés à l'autisme, à l'humeur ou à la coordination musicale comme la capacité de suivre un rythme. L'intérêt de cette découverte? Ces résultats cassent les mauvaises idées reçues sur le bégaiement, comme le fait que ce serait à cause de trop de stress ou de la façon de parler de quelqu'un, souvent des mythes vieux comme le monde. Au contraire, cette recherche montre que le bégaiement est en partie dans notre ADN, tout comme la couleur de tes yeux ou ta taille. Grâce à ces découvertes, on peut imaginer dans un futur pas si lointain des méthodes de dépistage plus précoces, des prises en charge mieux adaptées des enfants à risque dès leur plus jeune âge et surtout une meilleure compréhension de ce trouble, loin des jugements ou du sentiment d'échec. Et toi, est-ce que tu respectes ces personnes qui ont un trouble d'élocution verbale? La vie est belle. Je suis pas cher. La vie est belle. Je suis pas cher. Faire bouillir les homards vivants sera interdit au Royaume-Uni. Un texte de Alice Goujon, paru le 27 avril 2026 dans les As de l'Info. La saison du crabe est lancée. Son ami, le homard, se retrouve lui aussi dans l'actualité. Pourquoi? Parce que faire bouillir les homards vivants sera bientôt interdit au Royaume-Uni. C'est maintenant considéré comme de la cruauté animale. Je t'explique. Selon le gouvernement britannique, faire bouillir les homards et autres crustacés quand ils sont toujours en vie constitue de la cruauté animale. C'est pourquoi le Royaume-Uni a annoncé qu'il interdira cette pratique d'ici 2030. Les amateurs de homards de ce pays devront à l'avenir tuer ce crustacé avant de le plonger dans l'eau bouillante, question de limiter ses souffrances. Savais-tu qu'on fait souvent bouillir les homards et les crabes vivants avant de les manger? Mythe ou réalité? Ça fait réagir le monde de la cuisine un peu partout, car depuis très longtemps, on dit que les crabes et les homards ne ressentent pas la douleur. Pourtant, c'est faux. Alors, d'où vient ce mythe? En 2005, un chercheur norvégien a étudié des invertébrés, incluant des homards et des crabes, pour déterminer s'ils ressentaient la douleur. Sa conclusion? Que la plupart n'avaient probablement pas la capacité de ressentir la douleur. Il supposait que la réaction des crustacés quand on les plonge dans l'eau bouillante est davantage un réflexe. Mais, en 2021, des chercheurs de Londres, au Royaume-Uni, ont prouvé le contraire. Leurs tests démontrent que ces crustacés ont des nerfs qui détectent les températures extrêmes et les blessures, comme nous. C'est ce qui a poussé le gouvernement britannique à revoir ses lois sur la cruauté animale. D'autres pays, comme l'Autriche, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, ont déjà interdit de faire bouillir ces animaux alors qu'ils sont encore conscients. Un débat mouvementé. Certains croient que cette loi ne servira à rien. Pour eux, peu importe de quelle manière les crustacés sont tués, ils seront quand même mangés, alors à quoi bon se compliquer la vie ou changer ses habitudes? De l'autre côté, les défenseurs des droits des animaux trouvent qu'il est insensé de continuer d'ébouillanter vivants les homards quand d'autres méthodes plus humaines existent. Par exemple, depuis que cette pratique est interdite en Norvège, les chefs cuisiniers assomment les homards ou leur coupent la tête avant de les faire bouillir. On peut aussi mettre le homard au congélateur quelques minutes pour engourdir ses sensations. Et au Canada? Au Canada, il est toujours permis d'ébouillanter les homards vivants. Est-ce que le Canada devrait aussi interdire cette pratique? J'ai posé la question à la SPCA de Montréal, un organisme à but non lucratif qui défend les droits des animaux. Il est clair que le Canada a besoin de lois plus strictes pour protéger les animaux, incluant les homards, m'a-t-elle répondu. L'organisme rappelle qu'à l'épicerie ou à la poissonnerie, les homards sont souvent entassés dans des aquariums surpeuplés, ce qui compromet leur bien-être et leur cause de la souffrance. Bref, selon la SPCA, il faut non seulement penser à la façon dont les homards finissent leur vie, il faut aussi améliorer leur sort avant qu'ils sautent dans la marmite. Pas seulement les homards. Le Royaume-Uni planifie aussi d'interdire les cages à poules, les colliers électriques pour chiens et mettra en place des lois plus strictes dans les abattoirs et les fermes. C'est une bonne nouvelle pour tous les animaux. Et toi, crois-tu qu'on devrait aussi interdire la cuisson de crabes et de homards vivants au Canada? Explique-moi ton opinion. Cinquante ans après Jaws, les requins en arrachent encore. Un texte paru le 26 juin 2025 dans Québec Science. Le film Jaws, sorti en 1975, a implanté une peur irrationnelle des requins sur deux générations. Au grand détriment des squales, dont les populations diminuent dans l'indifférence des humains. Aimes-tu les vieux films d'horreur? Quelle que soit ta réponse, tu connais sûrement, au moins de nom, le classique Jaws, ou Les dents de la mer, en français, réalisé en 1975 par Steven Spielberg et inspiré d'un roman de Peter Benchley. Ce film, dans lequel des humains doivent combattre un immense requin mangeur d'hommes, a inculqué la peur des requins à deux générations et continue, 50 ans plus tard, de peser lourdement sur leur image. Le film a en effet démonisé ces animaux, les présentant comme des prédateurs implacables et viscéralement attirés par les proies humaines. Cette vision sensationnaliste, mais mensongère, amplifiée par la musique angoissante et la mise en scène, a suscité une peur irrationnelle qui a marqué durablement l'opinion publique. Ce climat de peur a entraîné une augmentation des pêches récréatives ciblant les requins, notamment via des tournois de pêche prisés aux États-Unis. Même si cette forme de pêche est restée marginale et n'est pas responsable du déclin global des populations de requins, elle a pu accentuer la baisse qui était déjà en cours, en particulier pour les grands requins blancs dont les captures diminuaient déjà depuis le milieu des années 1950. Cependant, les spécialistes soulignent que le principal facteur de l'effondrement des populations de requins reste la pêche industrielle. Aujourd'hui, environ 100 millions de requins sont tués chaque année, notamment pour leurs ailerons et leur chair. Selon une étude publiée en 2021, ces pratiques ont entraîné une chute moyenne de 71% des populations de requins et raies depuis 1970. Jaws n'a donc pas causé l'apocalypse, mais il a contribué à rationaliser et à légitimer une hostilité qui s'appuyait déjà sur des idées fausses. La sortie du film a quand même eu un impact positif imprévu. Elle a inspiré une nouvelle génération de scientifiques à étudier les requins et à mieux comprendre leur comportement et leur rôle écologique. Grâce à des technologies modernes, balises acoustiques, drones, etc., les chercheurs ont aujourd'hui une connaissance beaucoup plus fine de leur écologie. Aujourd'hui, la société commence à s'éloigner de l'image féroce de Jaws, en remettant en cause des termes comme « attaque de requins » et en adoptant un discours plus nuancé. Les requins n'attaquent pas les humains. Mais l'héritage du film perdure. Pour beaucoup, il demeure la référence principale sur les requins, alimentant des peurs et des politiques publiques hostiles, comme les abattages ou la pêche sportive. Le défi actuel est donc de remplacer cette image de tueur sanguinaire par celle de créature écologiquement essentielle et complexe, digne de protection. Savais-tu que l'on trouve des requins blancs au Canada? Le monde en 2000 Lego, vu par Camilia, 13 ans. Un texte de Camille Lopez, paru le 25 avril 2026 dans les As de l'Info. L'émission Infoman présentait une exposition d'œuvres inspirées par l'actualité. L'une d'entre elles a été réalisée par Camilia Cueto-Paquin, une élève de secondaire 2. J'ai discuté avec elle de sa création, décrite comme « hypnotisante » par Infoman lui-même. Tu as représenté l'Assemblée générale de l'ONU en Lego. Pourquoi as-tu choisi ce thème? J'aime bien la politique internationale et les relations entre les pays. C'est une bonne façon d'intéresser d'autres personnes de mon âge à ça. Tu as représenté tous les pays. Combien de pièces de Lego as-tu utilisées? Au total, il y a environ 220 personnages et 2000 pièces. J'ai aussi personnalisé les pièces. Comment? Je suis allé dans un magasin spécialisé et j'ai demandé de faire imprimer tous les drapeaux sur des petits Legos. L'œuvre de Camilia s'intitule « Make Butch Great Again ». Un clin d'œil au slogan du président des États-Unis Donald Trump « Make America Great Again », qui veut dire rendre à l'Amérique sa grandeur en français. Et un putsch, c'est un mot qui désigne une tentative de renverser un gouvernement. Ça t'a pris combien de temps? As-tu eu de l'aide? Peut-être entre 1 et 2 mois, parce qu'il fallait tout construire et commander les pièces personnalisées. Mon père m'a beaucoup aidé, surtout pour m'amener au magasin et pour placer quelques personnages. Ton œuvre est passée à la télé, à l'émission Infoman. Comment te sens-tu? Je me sens fier. J'ai trouvé que c'est quelque chose de rare qu'une jeune personne soit nommée à la télé sans que quelqu'un derrière ait tout fait pour elle. Je suis contente de pouvoir peut-être inspirer d'autres jeunes à faire leurs propres œuvres et à les partager. Marie-Lise et Clémence ont visité l'exposition. Elles te présentent leur coup de cœur dans ce qui suit. Cette semaine, nous sommes allés visiter une exposition pas comme les autres, la galerie Jean Tal de l'émission Infoman. On y découvre des œuvres inspirées des grands moments de l'actualité de l'année 2025. Aujourd'hui, on te présente celles qui nous ont le plus marquées, fait réfléchir, rire et penser à toi, chère race. Ce qui nous a fait réfléchir, de l'artiste Michel Gagnon. Il y avait une peinture qui parlait de la crise du logement et de l'itinérance. On y voyait un vélo, avec une petite remorque et une affiche où il était écrit « Logement à louer ». Ça peut sembler drôle au premier regard, mais le sujet est sérieux. Cette œuvre rappelle que trouver un appartement devient très difficile pour certaines personnes, au point où les solutions peuvent sembler parfois farfelues ou peu sécuritaires. De l'artiste Amélie Roberge. C'était un tableau intitulé « Toc, 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 c'est le grand méchant Trump ». On y voit le grand méchant Donald Trump qui prend les traits d'un loup menaçant. Il avait des griffes aiguisées et des crocs acérés. Il semblait prêt à souffler très fort sur le village de Qaqortoq au Groenland. Cette image forte fait référence à toutes les fois que Donald Trump a affirmé vouloir prendre le contrôle de cette île. Comme quoi, dans la vraie vie, comme dans les contes, les plus forts essayent parfois de prendre le dessus sur les plus petits. Ce qui nous a fait rire, de l'artiste Josiane Cyr. En octobre 2025, 4 cambrioleurs ont dérobé pour plus de 140 millions de dollars en précieux joyaux au musée du Louvre à Paris. Mais dans leur fuite, ils ont échappé une couronne. La créatrice de cette œuvre a recréé la fameuse couronne et l'a mise en sécurité dans un coffre cadenassé. Mais lorsque l'on regarde bien le cadenas, on peut lire le code pour ouvrir la boîte. C'est écrit « Louvre ». C'est parce qu'après le vol, on a découvert que le mot de passe des caméras de surveillance du musée était « Louvre ». Pas très top secret. De l'artiste André-Louis Morneau. C'était une photographie qui nous a bien fait rigoler, mais si elle parle d'une réalité qui en agace plusieurs. On découvre une scène de Montréal où le nom de la rue est bien choisi. C'est la rue Barré, et elle est complètement barrée par des travaux. Une petite trouvaille qui rappelle à quel point les chantiers de construction sont nombreux en ville. Le coup de cœur de Clémence, de l'artiste Marianne Goulet. Impossible de rester indifférente devant son œuvre délicate comme « Les ailes de papillon », composée de 2 photographies. Sur la première, on voit un papillon monarque qui butine une fleur. Sur la seconde, il s'est volatilisé en un battement d'ailes. Ces images nous rappellent que le monarque est une espèce en voie de disparition. Sa présence devient de plus en plus rare, menacée par les changements climatiques. Il pourrait même un jour disparaître complètement comme sur la deuxième photo. Mais reste à l'affût. Alice prépare un article qui t'expliquera comment tu peux aider à le protéger. Et le coup de cœur de Marie-Lise, de l'artiste Kathleen Bro. Mon coup de cœur à moi, c'était l'œuvre de Kathleen Bro qui représente une colombe. Savais-tu que c'est le symbole de la paix? Mais l'œuvre de Kathleen, en la regardant de plus près, on réalise que l'oiseau est constitué de tout plein d'objets qui rappellent la guerre comme des armes et des bombes. L'artiste fait référence à Donald Trump, le président des États-Unis, qui dit vouloir la paix, mais qui recourt régulièrement à la violence et à la guerre. Ce qui nous a fait penser à toi. De l'artiste Caroline Plante. En voyant cette sculpture, c'était impossible de ne pas penser à nos lecteurs des As de l'Info. Une sculpture murale en 3D avec les chiffres bien connus 6 et 7. Te doutes-tu pourquoi? Tu as sûrement beaucoup entendu les fameux chiffres 6, 7 dans ta classe cette année, mais en regardant derrière ces grands chiffres colorés, on remarquait des images et des mots liés à des actualités qui ont touché la planète. Comme quoi, parfois, ce qui devient viral attire notre attention pendant que d'autres nouvelles importantes passent presque inaperçues. Et il y avait l'œuvre de Camilla Cueto-Paca, une élève de secondaire 2 qui n'a que 13 ans. Comme on te disait plus haut, elle a créé une œuvre en utilisant 2000 pièces Lego. Et toi, joues-tu au Lego? Qu'est-ce que tu aimes le plus créer avec? Quelle actualité de la dernière année t'a le plus marqué? Comment la représenterais-tu en œuvre?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Eva,
Terrence, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de On lit pour toi!